autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, pour une nouvelle semaine de rediffusion estivale des plus grandes voix, des plus grands noms de la recherche, qui depuis presque 10 ans maintenant nous ont fait l'honneur et l'amitié de leur présence en direct sur nos ondes. Aujourd'hui, le plus célèbre de nos paléontologues, Yves Coppens, découvreur de Lucie et de tant d'autres fossiles humains, chercheur humaniste, bienveillant, inspiré et inspirant, a publié ses mémoires en 2017, « Origine de l'homme, origine d'un homme ». L'occasion de revenir sur son formidable parcours à remonter le temps, plus de 80 ans de rencontres, d'expéditions, de recherches et de découvertes, depuis celle d'une sépulture gauloise dans sa Bretagne natale, jusqu'au genou de Lucie, exhumé dans le bassin de l'Afar en Éthiopie, dans cette bien nommée vallée de l'Omo, et sur ce continent africain qu'il a tant arpenté, avant de revenir au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, professeur donc au Muséum et au Collège de France. Yves Coppens poursuit l'aventure de toute une vie, une aventure humaine et scientifique sur les traces de notre préhistoire commune, buissonnante, qu'Yves Coppens donc nous avait fait partager le 31 janvier 2018, autour de la question « Pourquoi et comment remonter aux origines de l'humanité ?» Bienvenue. Bonjour Yves Coppens.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le
paléontologue.
Ah, ça c'est gentil. De recevoir le paléontologue que vous êtes, internationalement reconnu pour vos nombreuses découvertes, à commencer par celle de Lucie, bien sûr, notre arrière-grand-mère à tous. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, auteur de plusieurs ouvrages à succès. Vous venez de publier vos mémoires, Yves Coppens, chez Odile Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme, tant il est vrai, Yves Coppens, que votre propre histoire rejoint notre grande histoire commune. Les découvertes fondamentales qui ont rythmé votre vie de chercheur ont contribué à réécrire notre préhistoire, bien plus buissonnante qu'on ne l'imaginait. On pourrait dire que vos mémoires, Yves Coppens, ce sont un peu les mémoires ou la mémoire de l'humanité.
Oui, enfin, c'est prétentieux, hein. Mais il se trouve en effet qu'ayant commencé très jeune, enfin ayant été intéressé tout petit par la préhistoire, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que de la préhistoire et de la paléontologie. Donc j'ai accompagné l'homme, si je puis dire, dans le sens inverse de son ancienneté d'ailleurs, en commençant par les plus jeunes, les moins anciens, et en continuant par de plus en plus anciens. Et donc en un sens, oui, j'ai toujours été le compagnon de l'humanité et le compagnon de son histoire.
Dans votre chronologie à vous, hein, donc dans votre géographie personnelle, Yves Coppens, il y a d'abord l'attrait de l'ailleurs et puis aussi l'attrait de l'avant, mais l'attrait pour les autres toujours. Hein.
Oui, alors ça c'est vraiment spontané. J'ai toujours essayé de rechercher d'où pouvaient venir ces intérêts. Quand j'étais tout petit, l'intérêt pour la préhistoire, pour le passé, pour ce qui est caché peut-être, ce qui est sous les pieds, c'est lié pour moi, il me semble, à l'imaginaire, de l'enfance. Et j'en ai parlé là avec Marie de Oliveira, qui m'accompagne, et je lui disais que quand j'étais enfant, je suivais beaucoup les collections de timbres. J'étais très intéressé par les timbres, et j'ai rêvé beaucoup sur les timbres. Donc l'exotisme, l'intérêt pour l'exotisme. Alors l'exotisme, ça a une connotation un peu particulière, et que je ne voudrais pas désagréable, parce que pour moi, c'est la merveille. Aller voir l'autre, et aller rencontrer l'autre, et aller ailleurs, c'est formidable. Et puis, en étant heureux ici, hein, quand même.
Et puis il y a aussi, Yves Coppens, l'amour des pierres, du granit et des dolmens de votre Bretagne natale, l'amour du sable et de la cendre, hein, pour reprendre les chapitres de vos mémoires pour le pôle. Donc c'est l'amour pour le continent africain, et en particulier sur la vallée du Rift. Et puis vous avez aussi un grand faible pour les éléphants.
Oui, mais, oui, mais ça c'est pas exprès, mais en effet... j'ai tout à fait adhéré à cette histoire-là. C'est un de mes patrons de la Sorbonne qui m'a proposé une thèse sur les animaux avant que je ne m'intéresse à l'homme. Avant de me laisser m'intéresser à l'homme, parce que j'étais intéressé à l'homme dès le début.
Il fallait d'abord passer par les éléphants.
Oui, l'homme, ça se mérite, quoi. Donc, pour lui, je ne pouvais pas travailler tout de suite sur la paléontologie humaine, donc il m'a proposé des animaux. Et il m'en a proposé des tout petits, les rongeurs, ou des très gros, les éléphants. Et j'ai préféré les très gros. Et donc, je me suis attaché tôt, autour de la fin des années 50, à ces grosses bêtes. Et je ne les ai pas quittées. Elles sont passionnantes par différents aspects, mais passionnantes aussi en ce qui concerne mon travail de géologue et de paléontologue, parce que ce sont des bêtes qui évoluent très vite, qui se diversifient très vite, et qui par suite, quand on les découvre dans un terrain, datent le terrain et donnent une bonne information sur l'environnement du terrain. Donc c'est riche. Vous trouvez un chicot de dents d'éléphant et je vous dis à quelle époque on se trouve et dans quel milieu on se trouve.
C'est à partir bien, d'un chicot de dents d'éléphant, c'est pas mal. Alors on va revenir sur quelques moments clés justement dans votre parcours, Yves Coppens, et dans vos découvertes. Nous allons nous arrêter ensemble là-dessus. Après avoir tiré le fil de notre petite boîte musicale à remonter le temps, mix sur vos traces, Yves Coppens, signé Nicolas Benita.
Il y a 3,2 millions d'années, vivait Lucie, la doyenne du genre humain.
Comment ces êtres vivants se sont dispersés sur la planète ?
C'est quoi ?
Ce qu'est le métier de paléontologue ? This heart of stone. Oh no, no.
This heart of stone. On a retrouvé des mégalithes, ces grosses pierres dont certaines sont dressées vers le ciel, un peu partout sur la planète. En Afrique, en Chine, au Proche-Orient, en Amérique du Sud, en Europe bien sûr.
Dolmen en breton, ça veut dire table de pierre. Mais en fait, les dolmens qu'on peut observer encore aujourd'hui ne sont que les vestiges, les restes de monuments beaucoup plus imposants.
Dans la jungle, nous pensons, sans savoir où nous allons, vous nous entendez broyer les fourrés.
Clin d'œil à ces éléphants, mais aussi aux mégalithes et à Lucie, bien sûr. On pourrait dire que ce sont vos trois amours, vos trois passions, Yves Coppens. Laquelle vous laisse le meilleur souvenir, d'ailleurs, entre Lucie, les dolmens et les éléphants ?
C'est drôle, hein ? Sans doute les premiers, hein, forcément. C'est toujours un peu les premières choses qui attachent.
Donc les dolmens.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai traîné en Bretagne mes jeunes années, mes petites années. Et j'étais fasciné, bien sûr, par ces grosses pierres. Et ce que je raconte souvent, parce que ça impressionne les gens, et c'est une réalité, c'est que, étant né au bord de la mer, j'ai bien sûr fait du bateau. J'ai bien sûr fait du bateau à voile. Et quand j'arrivais du large vers le golfe du Morbihan, l'entrée du golfe du Morbihan, elle est étroite. Et quand je passais cette entrée dans le golfe, je m'alignais sur deux menhirs. C'est-à-dire quand les deux menhirs étaient écartés, je n'entrais pas. Et puis petit à petit, en me déplaçant, les menhirs s'alignaient. Quand ils étaient alignés, je pouvais y aller les yeux fermés.
C'était vraiment votre point de repère.
Oui, ce sont des amers. Ça, j'entrais dans le golfe. Donc vous voyez, les néolithiques me dirigeaient encore, m'orientaient encore pour rentrer dans ma petite mer.
Oui. Yves Coppens, c'est d'ailleurs votre émotion la plus forte, hein, de chercheur, je crois. Je crois que c'est pas en découvrant Lucie, mais c'est à l'âge de 20 ans, en Bretagne, donc en pénétrant dans la chambre d'un dolmen totalement inviolé depuis plus de 7000 ans.
Oui, ça c'est une chance, hein, parce que d'abord j'étais tout jeune, ensuite j'étais étudiant. Comme étudiant, je m'étais porté bénévole pour faire tous les chantiers de fouilles officiels de la circonscription des antiquités préhistoriques, qui était l'administration des choses anciennes. Et il s'est trouvé que dans ces années-là, on est allé prospecter une sorte de petite butte, de petite colline. On ne savait pas si c'était un vrai tumulus avec quelque chose dedans ou si c'était une colline naturelle. Sur une île qui portait un nom prédestiné, qui s'appelle Carne. Carne, c'est comme Carnac, ça veut dire tas de cailloux. Alors, vous savez, pour un archéologue, un tas de cailloux, c'est quelque chose.
C'est merveilleux.
Oui, c'est merveilleux. Et donc, on a fait un trou, on est tombé dans une sorte de petite fosse avec quatre murs. Et puis, après avoir sondé les murs, il y en avait trois qui étaient pleins et le quatrième qui était vide, si j'ose dire. Enfin, qui montrait qu'il y avait autre chose derrière. Et donc, comme on risquait de prendre des pierres sur la tête, on a seulement dégagé un petit guichet, on a retiré quelques pierres de ce mur-là. celui qui sonnait creux. Et puis, c'est moi qui ne riais pas, c'était moi le plus mince. C'est moi qui ai eu le bénéfice d'entrer le premier dans une salle avec une coupole tout en granit et des pierres en encorbellement. Et c'était somptueux, à peu près 5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre. Quoi.
Et c'est une sépulture
Oui, c'est une sépulture, oui.
Gallo-romaine.
Bien avant.
Bien avant.
7000, un peu plus de 7000 ans, c'était néolithique. C'est le début de l'agriculture, le début des agriculteurs. Non, c'est 5000 ans avant les Romains.
Hein. Oui.
Non, c'est sérieux.
Donc c'est vraiment le néolithique. Oui, on est déjà dans la préhistoire.
Ah oui, on appelle ça la protohistoire, mais enfin, c'est la préhistoire quand même. Oui.
Est-ce que vous aviez, à cette époque-là, que vous avez hérité du surnom plutôt prometteur de Coco le fossile ?
Oh, bien avant. C'était à l'époque où j'étais au collège et au lycée que, pendant ma petite enfance, avant d'être, non pas professionnel, mais comme j'étais étudiant, c'était quand même un petit peu mieux que le petit galopin qui grattait la terre. Mais lorsque j'étais au collège, en effet, mon nom de copain, ça avait entraîné l'idée de Coco, et puis le fait que je rapportais plein de coquilles fossiles, et puis plein de fossiles de vertébrés, et puis plein de poteries à l'école, m'a fait appeler Coco le fossile très, très tôt.
Alors, en clin d'œil à Coco le fossile, à votre jeunesse bretonne, Yves Coppin, c'est l'heure du Fest-No sur RFI. On écoute la belle voix de Jan von Schemener.
RFI à Paris, 89 FM.
Gloutandou, jig me bionic me ye gone o de o de hortos genete iuma mi do vershik ig de o o mami gezu dansi rezultat zu A viso a man biani go hun an base dje. Loutandou jig, loutandou jig, loutandou jig me bianik me ye gan o deo. De hortos chene te you Mami gezu dansires o tadzu meu ye a huizo a man biani go hunan barzeje lutandu jig lutandu jig me biani
von Schemener, en version originale. C'est beau, hein. Magnifique chanteur breton sur RFI. Bah, c'était pour vous, Yves Coppin. Merci. Vous venez de publier vos mémoires, Origine de l'homme, origine d'un homme, aux éditions Odile Jacob. Alors après, le chapitre breton, c'est le chapitre africain que nous allons ouvrir avec 25 années sur tous les terrains, à commencer par l'est du continent. Vous n'avez pas tout de suite découvert Lucie, mais c'est arrivé assez vite.
Oui, mais en fait, j'ai commencé par le centre. J'ai commencé, d'un coup, je suis parti de France en Afrique tropicale, quoi. Je ne suis pas passé par l'Afrique du Nord. Je ne suis allé en Afrique du Nord que beaucoup plus tard. Et donc, j'ai été jeté tout de suite dans ce Sahel brûlant. Et ça a été une grande révélation. Je la cherchais, je m'y attendais, je l'espérais.
Vous l'espériez, Lucie, vous espériez, oui. On ne cherche pas par hasard, enfin on trouve ce qu'on cherche, on cherche ce qu'on trouve.
Oui, c'est vrai. En un certain sens, oui, parce que j'ai eu en effet cette perche tendue pour me rendre là-bas. J'aurais pu très bien ne pas la saisir. Et l'ayant saisie, j'ai souhaité me rendre dans cette Afrique tropicale. Donc c'était véritablement voulu, souhaité, espéré. Et j'ai été le plus heureux des petits mammifères.
Quand vous êtes tombé sur le genou de Lucie dans la hanche de l'Afrique, comme vous le dites joliment, alors comment réagissez-vous face à ces restes fossiles humains, préhumains? Nouvelle question pour vous, Yves Coppin, soulevée par un autre spécialiste et familier des os et des restes humains. C'est le médecin légiste et paléopathologiste Philippe Charlier qui vous la pose.
Je me suis toujours demandé, quand on étudie avec un œil de paléontologue des squelettes qui ont plusieurs millions d'années, si Yves Coppin considérait ces squelettes comme des personnes humaines, comme des patients presque, ou si c'était plus des restes animaux ou quelque chose de beaucoup moins incarné. Voilà, est-ce qu'il est face à une humanité, à un patient ou simplement un bout d'os ?
Votre réponse, Yves Coppin.
Ouais, c'est une très, très jolie question. Et en effet, quand on est face à une face, comme la première fossile que j'ai trouvé, c'était une face humaine. Oui, on est conscient qu'il y a eu derrière cette face une personne. Et donc, il y a un respect qui est incontestable et qui n'existe pas devant un animal, enfin différent en tout cas. De ce que l'on peut avoir devant un animal à trompe, par exemple.
Est-ce qu'on s'habitue ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'une découverte chasse l'autre ? Est-ce qu'on s'habitue ? Parce que c'est très impressionnant. Moi qui ai eu la chance de pouvoir parfois m'approcher de fossiles, c'est impressionnant. Oui, ça fait quelque chose à l'intérieur.
C'est impressionnant parce que c'est d'abord une personne, comme je l'ai dit. D'autre part, cette personne, elle est transformée par le temps, elle est transformée par le terrain. Elle est transformée comme une sculpture par la nature. Et ça devient donc un petit peu autre chose, mais ça reste quand même la personne d'origine. Et quand vous dites une découverte chasse l'autre, non, pas du tout, pas du tout. C'est cumulatif, c'est-à-dire qu'une découverte s'ajoute aux autres, aux précédentes, mais ça ne les élimine pas pour autant. C'est pour ça que dans ces petites mémoires, je les ai toutes enfilées, si je puis dire, dans l'ordre de leur découverte.
Oui, c'est ça, qui n'est pas l'ordre de chronologique de l'histoire, mais qui est l'ordre de vos découvertes.
Oui, mais l'ordre de mes découvertes, c'est l'ordre inverse de la chronologie, mais ça marche bien. Parce que les plus anciennes, je viens seulement de les découvrir ou de les signer, et les plus récentes correspondent à ma petite enfance.
Est-ce que ça fait une différence en tant que préhistorien, que paléontologue, des restes préhumains, des restes humains ? Est-ce que, alors vous voyez évidemment la différence, mais voilà, est-ce que ça fait une différence ?
C'est une filiation, n'est-ce pas ? Donc à partir du moment où c'est une filiation, non, je ne peux pas dire que j'ai moins de respect devant Lucie, qui n'est qu'une préhumaine.
Une australopithèque
que devant, oui, une australopithèque. Que devant un véritable humain, et que l'on appelle Homo habilis ou Homo erectus, etc. C'est la même sorte de respect. Et donc, je ne peux pas faire une différence au moment où la différence anatomique se manifeste. Moi, il n'y a pas de différence dans ma tête et dans mon esprit.
Et Yves Coppin, est-ce que ça change un homme, justement, que de passer sa vie avec les hommes d'avant, avec les hommes d'ailleurs, avec d'autres hommes, hein, puisqu'il y a eu de nombreuses espèces d'hommes sur Terre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça change un homme, ça ?
Oui, je ne sais pas. C'est pas à moi de juger, parce que comme je suis dedans, je ne me rends pas bien compte. Ce que j'entends dire à l'entour, c'est que peut-être que ça donne une distance, ça, sans doute. Une distance à la fois dans l'espace, bien sûr, mais une distance incontestable dans le temps. Et cette distance, elle permet peut-être, hein, je ne veux pas être prétentieux, de mieux apprécier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Or, dans l'existence, réfléchissez un tout petit peu, et je suis sûr que vous le faites abondamment, il n'y a pas grand-chose d'important.
C'est pas mal de nous le rappeler, Yves Coppin. On continue de remonter le temps sur vos traces, jusqu'aux origines, à l'écoute d'Amy Curl sur RFI, Song of Origin.
There is an empty road leading to water that floats lines up. Mother of a lonely life, having children of no return.
of Origin, Amy Curl sur RFI, en compagnie d'Yves Coppens, le plus célèbre de nos paléontologues, publie ses mémoires Origine de l'homme, origine d'un homme. Et c'est précisément sur la question des origines que vous interroge tout de suite Yves Coppens, le professeur de philosophie Stéphane Flocari.
La question des origines, c'est une question qui est une question évidemment d'historien. Est-ce que ça a un sens de pointer vraiment un commencement de l'humanité? La différence entre le commencement et l'origine, c'est que le commencement suppose le temps, il suppose la temporalité, alors que l'origine, c'est cette irruption première ou absolue qui ne s'adosse à aucune temporalité. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt les commencements de l'humanité que les origines de l'homme?
Que faut-il dire, Yves Coppens?
Ah oui, c'est très joli, et je ferai attention à la prochaine fois, en effet, puisque je dis souvent dans beaucoup de mes conférences que finalement, où est l'origine? Donc ça revient à dire ça. On cherche l'origine de l'homme, puis on se rend compte que l'origine, que l'homme est lié par filiation aux préhumains, puis que les préhumains sont liés aux primates, puis on remonte toute la chaîne jusqu'à l'origine de la vie. Mais l'origine de la vie, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi une filiation, c'est une histoire des molécules qui se rattachent aux atomes, et puis on arrive à l'origine de l'univers, et l'origine de l'univers, ce n'est pas l'origine de l'univers, et à ce moment-là, c'est la perception de l'univers. Alors, moi, mes commencements, c'est une perception de l'univers, avec en même temps l'émergence des photons, c'est très joli. Il n'y a pas de message derrière ça, hein, mais c'est au moment où la lumière, lui, qu'on perçoit l'univers. Et cette perception qui n'est pas une origine et qui est un commencement de notre connaissance, un commencement de notre connaissance, va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui et bien sûr, enfin j'espère demain. Et donc il n'y a pas d'origine dans tout ça. Merci beaucoup de cette précision que je prends tout à fait en compte.
Il n'y a pas d'origine et il n'y a pas non plus de palier. Enfin, vous faites un travail de détective en tant que paléontologue. Vous remontez le temps, mais il n'y a pas vraiment de palier non plus. On observe alors des préhumains et puis différentes espèces d'hommes sur Terre ensemble. On ne cesse d'en découvrir. Vous avez participé vous-même à cette réécriture, en quelque sorte, ou redécouverte de notre préhistoire humaine, jusqu'à aujourd'hui, où il y a, nous sommes bien d'accord, une espèce, une seule espèce humaine sur Terre, originaire d'Afrique.
Oui, c'est-à-dire que c'est en effet une histoire compliquée. Et c'est vrai que le travail du scientifique, c'est d'essayer de décrire cette histoire-là dans toute sa complexité et essayer de la décrypter. Et le décryptage, il se fait morceau par morceau, analyse par analyse. Et à chaque fois, on dit tout a l'air de se passer comme si c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'humilité du chercheur qui imagine au bout d'un certain temps, imagine, c'est le mauvais mot d'ailleurs, que ce qu'il a découvert, parce qu'il continue à le découvrir à plusieurs reprises, ça doit s'approcher statistiquement d'une certaine vérité. Vous voyez que je fais attention au terme. Et c'est bien sûr un travail de détective, on l'a dit souvent, parce que c'est la démarche même de la science. C'est une démarche de curiosité, c'est une démarche de connaissance. C'est une démarche d'approche le plus loin possible d'une certaine réalité. Mais enfin, cette certaine réalité, elle peut toujours être ébranlée par une découverte nouvelle.
Et
vous savez
qu'on
dit très joliment « Always expect the unexpected ». Attends-toi toujours à l'inattendu.
Et ça, c'est obligatoire, parce que c'est vrai qu'au cours de votre vie, notre histoire, préhistoire, proto-histoire humaine, elle a énormément évolué. Elle est beaucoup plus buissonnante qu'on l'imaginait au début. Elle n'est absolument pas en ligne droite, ni linéaire.
Oui, mais ça, c'est normal. Quand on fait 3 découvertes, on les aligne. Quand on fait 30 découvertes, c'est déjà un peu plus compliqué. Et quand il y en a 300, finalement, la complication se simplifie. Parce que ça devient populationnel. Donc, plus il y en a, mieux ça vaut. Mais il faut faire attention, parce que ça, c'est compliqué en effet, et puis finalement simplifié, comme je le dis, surtout. Et j'ai horreur l'attitude de certains médias, pardonnez-moi, mais je leur crache ma vérité, je les adore, donc je peux me permettre.
Ah, mais allez-y.
Lorsqu'à chaque fois qu'on fait une découverte, on dit dans la presse, tout est bouleversé. Alors non, si tout est bouleversé, ça veut dire que nous, on n'a rien compris, et ce n'est pas vrai du tout. Depuis des 100 ans, depuis Cuvier, les grandes lignes de la phylogénie, c'est-à-dire les grandes lignes de la généalogie des êtres vivants, n'a pas bougé. Et dans le détail, bien sûr que ça bouge.
Ce sont des rameaux supplémentaires
Oui, supplémentaires ou mal compris, c'est ça. Et mais c'est vrai que par rapport à l'enseignement, moi, que j'ai reçu à la Sorbonne dans les années 50, la richesse de l'information de notre généalogie, de notre arbre, est considérable. Mais déjà, vous vous rendez compte, Henri-Victor Valois est mort il y a bien longtemps, il avait été directeur du Musée de l'Homme, c'est un monsieur qui donc s'est exprimé il y a peut-être 50 ou 60 ans, sinon plus, et il disait déjà, il faut bien se rendre compte que l'arbre généalogique de l'homme n'est pas un peuplier. Donc c'est clair, n'est pas un peuplier, ça veut dire qu'il fallait s'attendre à bien des branches, et ces branches-là, ben, petit à petit, on les découvre, on les décrit. Et ça veut dire aussi que l'histoire de l'homme, elle est tout à fait comparable à l'histoire de n'importe quel autre animal, et elle correspond bien à ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Il y a aussi une biodiversité humaine, avec, comme vous l'avez dit à juste raison, une contemporanéité d'un certain nombre d'espèces humaines.
Et qui ont vécu en même temps.
Ce qui est étonnant, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y en ait qu'une seule.
Oui. Comment se fait-il que nos ancêtres, Homo sapiens, aient colonisé toute la Terre? Alors nous sommes tous aujourd'hui, on le rappelle, des Homo sapiens, tous issus d'Afrique. Mais l'origine justement de notre espèce d'Homo sapiens a été déplacée l'année dernière, enfin en 2017, dans le temps et dans l'espace, avec la découverte au Maroc, au nord du continent donc, sur le site de Jebel Irhoud, du plus ancien fossile découvert à ce jour, d'Homo sapiens, âgé de 300 000 ans, c'est-à-dire 100 000 ans de plus que prévu. Une découverte assez étonnante, alors qui ne bouleverse pas, mais qui en rajoute, alors, qui change.
Attention à ce que vous dites. Oui.
Voilà, qui change, je fais attention à mes mots, qui change la chronologie et la géographie de nos origines, que l'on doit à l'équipe internationale du professeur Jean-Jacques Hublin, qui a commenté ici même, dans notre studio. Je propose de l'écouter, c'était en septembre dernier. Vous réagirez ensuite, Yves Coppens.
Cette découverte, elle bouleverse un peu les idées que l'on a sur cette apparition, puisqu'effectivement, au lieu d'une apparition dans un espèce de jardin d'Éden est-africain, on se rend compte que probablement c'est l'ensemble du continent africain qui a été impliqué dans cette émergence. Mais je crois surtout ce qui est important au-delà du temps, parce qu'après tout, le public pourrait se dire, bon, 200 000 ans, 300 000 ans, qu'est-ce que ça fait comme différence, ou même du lieu. Je crois que surtout, ce qui est important, c'est ce que cela nous apprend sur le processus d'émergence de notre espèce. Et c'est peut-être de ce côté-là que pour un paléanthropologue, il y a le plus de surprises, aussi le plus de débats. On imaginait l'apparition de l'Homo sapiens comme une espèce d'émergence un peu adamique. Tout d'un coup, voilà, paf, un homme comme vous et moi est apparu sur Terre. C'était presque créationniste, surtout dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un processus un peu plus compliqué que ça, avec certains aspects de notre anatomie, certains caractères qui sont mis en place de façon très précoce. Et puis, par ailleurs, d'autres caractères qui, manifestement, ont évolué sur une longue période de temps, 300 000 ans, en particulier tout ce qui tourne autour de notre cerveau. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a le plus de nouveautés, en fait.
Vous partagez l'avis de Jean-Jacques Hublin. Vous avez vous-même, Yves Coppens, pu observer de près au Collège de France ces restes du plus ancien d'Homo sapiens découvert à ce jour. Vous partagez son opinion que la nouveauté, elle est du côté du développement de notre cerveau.
Oui, et ce qu'il dit fort bien, ce qu'il dit très mal, c'est bouleversé.
Vous n'aimez pas trop, je lui dirais. Ça n'a pas tout bouleversé, mais ça a changé quelque chose.
Oui, non, ben, c'est-à-dire que En science, vous savez, on a des idées. Ces idées, on les exprime, mais ces idées ne prennent véritablement corps que lorsqu'elles sont démontrées. Tant qu'il n'y a pas de démonstration, on ne peut rien dire.
Tant que vous n'aviez pas découvert Lucie, vous pouviez la chercher et savoir qu'elle existait.
Oui, enfin, on parlait de préhumains, mais on ne savait pas du tout l'allure qu'ils avaient. Lucie, juste deux secondes, son grand succès, c'est le fait, enfin pour nous, pour la science, c'est le fait de découvrir qu'elle était à la fois bipède et arboricole. Donc elle avait deux types de locomotion en même temps. Alors en ce qui concerne Hublin, enfin en ce qui concerne ce Jebel Irhoud...
Donc cet homo sapiens, plus récent.
Cet homo sapiens de 300 000 ans, oui. Il dit très très bien que ce n'est pas l'origine. D'ailleurs, il parle aussi, lui, d'une espèce de commencement, ce qui est bien. Et il dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'Africain. Ça veut dire que ce n'est pas le Maroc qui est impliqué, c'est le Maroc aussi. Mais il y en a un qui s'appelle Floris Ba, dans l'Afrique du Sud, qui a le même âge. Donc ce n'est pas l'Africain. C'est-à-dire que l'homo sapiens est déjà réparti sur l'ensemble de l'Afrique et son origine est donc forcément plus ancienne. Et ça me réjouit que l'émergence d'Homo sapiens ressemble à l'émergence des autres hommes préhistoriques, bien sûr. Il n'y a pas de raison d'en faire un cas particulier. Et encore une fois, son observation est importante par la datation et aussi par ce que vous avez dit vous-même, cette histoire du développement du cerveau. Parce qu'apparemment, d'après les moulages endocrâniens des crânes du Jebel Irhoud, la répartition des lobes n'est pas tout à fait, des lobes cérébraux n'est pas tout à fait la même. Donc la pensée n'est pas tout à fait la même. Donc l'organisation du cerveau diffère aussi. Donc il y a une évolution non seulement dans l'extérieur, dans l'emballage, mais il y a une évolution dans l'intérieur que l'on mesure moins facilement parce qu'on n'a pas accès à la pensée de ce monsieur-là.
Et oui, c'est un peu difficile de remonter à la pensée il y a 100 000 ans.
Ah, ça viendra.
Ça viendra, vous pensez, oui. Yves Coppens,
qu'on pourra... Moi, j'ai grande confiance en la science et je crois qu'on pourra trouver des choses tout à fait extraordinaires qu'on ne peut imaginer encore.
Mais ce sera finalement en examinant ensuite ces os, ces restes, ces crânes que vous êtes allé chercher. Vous citez d'ailleurs dans vos mémoires un proverbe Peul que je me permets de citer sur notre antenne, mieux vaut poussière au pied que poussière au cul. Poussière au pied, vous connaissez, Yves Coppens.
C'est joli, hein ?
Oui, c'est très joli.
Oui, ben, ça veut dire que tant qu'on marche, ça va. Quand on est allongé, ça peut moins bien aller, quoi, en quelque sorte.
Mais la poussière, vous connaissez. C'est-à-dire que vous êtes allé fouiller sur tous les terrains, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui pour les paléontologues.
Non, ça continue. C'est un peu une question de moyens, vous savez. Mm-hmm. Et puis une question aussi de volonté, de désir et en même temps de courage de partir. Pour certains, il faut un certain courage pour y aller. Moi, je sais qu'avec mes étudiants, mes doctorants, j'ai eu parfois quelques difficultés à les convaincre à partir. Et une fois qu'ils sont partis, sur le terrain, ça va bien. Et sur le terrain, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, ils prennent goût et ne peuvent plus s'en passer.
Votre terrain préféré à vous, Yves Coppens, vous avez pratiqué tellement, sur le continent africain notamment.
Oui, là aussi, je vais reprendre ce terme de commencement. Pour moi, c'est sans doute le premier. Alors, le premier exotique, le premier lointain, la Bretagne, bien sûr, mais j'y retourne, c'est pas difficile, mais le premier terrain lointain, c'est celui du Tchad. Donc, j'ai été très retenu par ce terrain des grands espaces du Sahel et du Sahara. Donc, mon premier terrain, ça a été le désert. Et par la même occasion, enfin, par la suite, dans cette tradition-là, dans cette foulée-là, j'ai été très attiré par les grandes steppes d'Asie centrale, par les grandes toundras de Sibérie, beaucoup plus que par la forêt. La forêt m'inquiète et je ne suis pas habitué à la forêt.
Un homme du désert ou un homme des pierres?
Oui, c'est ça. J'ai un petit peu fréquenté la forêt équatoriale africaine, un petit peu fréquenté la forêt amazonienne. Je m'y sens moins bien que dans le grand désert, mais je pense que si j'avais commencé par la forêt, c'est la forêt que je préférerais, quoi.
Autour de la question comment remonter sur tous les terrains aux origines de l'humanité, on s'arrête en musique dans ce rift africain arpenté par Lucie Toumaï et les autres en Éthiopie, avec tout ce qu'il y a de plus contemporain comme voix, celle d'Aster Aweke sur RFI.
Paris 89 FM.
Astera Weke, une des voix de l'Éthiopie d'aujourd'hui.
Vous savez, la vraie émotion, c'est la chair de poule. Ben voilà, je l'ai.
Grâce à Astera Weke sur RFI. Nous sommes donc en votre compagnie, Yves Coppin, ce tour de la question des origines de notre humanité. Vous venez de publier vos mémoires, qui sont un peu, on l'a dit, la mémoire de notre humanité. Origine de l'homme, origine d'un homme. En l'occurrence, vous, Yves Coppin, ce paléontologue humaniste bienveillant, particulièrement apprécié de tous vos pairs, ce qui est assez rare pour le signaler. À ce sujet, nouvel éclairage en forme de question de Pierre Lagrange, qui était hier notre invité. Il est sociologue des sciences et grand amateur de cryptozoologie.
J'avais rencontré Yves Coppin au début des années 90, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait toute une polémique, un projet d'expédition pour rechercher l'almastie dans le Caucase. L'almastie, c'est une variété de yéti locale, et Yves Coppin avait apporté son soutien à ce projet d'expédition. Et donc, je serais très curieux de savoir comment sa réflexion a évolué au fil du temps sur ces créatures. Parce que j'avais constaté une espèce de coupure entre, je dirais, des paléoanthropologues comme lui, qui eux-mêmes avaient eu à convaincre leurs collègues pour rechercher les restes d'hommes anciens, enfin, comme Lucie justement, et d'autres types de chercheurs du passé, comme certains archéologues, qui eux classaient ça tout de suite dans le mythe et dans l'illusion. Et lui, il avait une attitude beaucoup plus ouverte et nuancée, et donc il avait écrit un courrier en faveur de cette expédition qui, bon, évidemment, n'a rien trouvé, hein, comme souvent sur ce genre de créatures. Mais oui, j'aimerais savoir ce qu'il pense aujourd'hui de ces Yeti, Almasti, Bigfoot aux États-Unis et autres bipèdes velus.
Qu'en pensez-vous, Yves Coppens ?
Ben écoutez, oui, ce que je veux dire d'abord, c'est que, en tant que scientifique, c'est comme l'histoire de Dublin, il faut une démonstration. Donc la démonstration, on la cherche. Mais tant qu'on n'a pas la démonstration, il faut rester attentif.
Il ne faut rien mépriser, surtout pas les savoirs et ce qui se dit, les mythes, les contes.
Oui, c'est-à-dire il y a souvent des attitudes un peu immédiates, mm-hmm. en disant non, sûrement pas ça, c'est pas très scientifique. Donc peut-être pas ça en effet. Et pour vous dire la vérité, là en ce moment, après beaucoup de tentatives de recherche, après beaucoup de fausses pistes, la réalité de ces êtres-là devient de moins en moins certaine, quoi. Donc j'ai tendance à moins y croire. Mais je reste ouvert, encore une fois. Et il se peut très bien qu'il y ait des êtres comme ça dont on n'a pas idée et qui sont encore existants.
Oui,
regardez le Sélacanthe, par exemple. Le Sélacanthe, on le connaissait il y a 60 millions d'années. Gros poisson. 60 millions d'années. Il avait disparu depuis 60 millions d'années. Et puis, un beau jour, sur un marché à Durban, un Anglais se trouve face à face avec, si j'ose dire, un Sélacanthe à vendre. Il l'a acheté, il paraît qu'il était déjà un petit peu avancé, donc
il a
décrit ce qu'il a pu. Et j'ai bien connu Jacques Millot, qui lui a fait faire par les pêcheurs des îles Comores des dragages de filets profonds. Et il a trouvé le Sélacanthe, c'est-à-dire que une bête que l'on croyait disparue, elle est bien là. Or,
pourrait y avoir un humain que l'on pense disparu et qui serait, en tout cas, vous gardez l'esprit ouvert justement.
Oui, j'espère bien, mais ce serait dommage de le fermer. Vous savez qu'il y a au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, une bête fossile qui s'appelle le gigantopithèque. Le gigantopithèque, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment un très grand primate. Donc après tout, pourquoi ce primate-là, de même que le poisson a été embêté par les petits poissons, il est descendu, pourquoi ce grand primate-là, embêté par les humains, ne serait-il pas monté, quoi, en quelque sorte.
Donc on pourrait peut-être
aller chercher là-haut la même chose que ce qu'on a trouvé en bas, c'est-à-dire des gens qui cherchent des refuges parce qu'ils n'arrivent pas à survivre dans un milieu nouveau, différent et un peu bousculant.
Et justement, notre milieu est très bousculant, Yves Coppens. Est-ce que, après avoir justement fouillé, réfléchi sur les hommes du passé, nos origines, est-ce que vous êtes confiant dans notre avenir ?
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Je suis aussi inquiet que quiconque, puisque je n'ai pas de compétences pour comprendre ce qui va nous advenir, bien sûr. Je suis très admiratif devant le développement des techniques, des technologies, de l'informatique, bien sûr, du numérique, bien sûr. Le transhumanisme m'inquiète un petit peu plus, mais après tout, il faut aussi rester ouvert. La robotisation est fantastique et va nous permettre d'être soulagés de bien des tâches, donc acceptons-la avec bonheur. Mais gardons l'œil ouvert et restons vigilants, parce qu'il y a toujours deux faces à la découverte. Regardez le nucléaire, il est fantastique en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne la médecine, et il est épouvantable en ce qui concerne la bombe. Donc tout ce qui va venir, c'est comme ça. Lorsque, il y a 800 000 ans, j'étais avec les Homo erectus, parce que ce sont des amis, lorsque quelques Homo erectus un peu plus jeunes ont réussi à fabriquer le feu, tout le reste de l'humanité erectus a dit « c'est épouvantable, ces types vont foutre le feu à la Terre ». Et c'est la même chose, quoi. Enfin, il y a les deux faces. Et aujourd'hui, le feu, on s'en sert, mais le feu, il brûle aussi nos forêts.
Donc, on a des feux de plus en plus puissants, hein, qui peuvent brûler aussi notre environnement.
Oui, il a aussi deux faces. Alors ça, c'est autre chose. Hein. C'est peut-être dû à un changement climatique, ça je suis pas très compétent.
Mais il faut pas vous parler donc de ces Homo erectus ou de ces Homo faber comme vos amis, une fréquentation comme ça, toute une vie de tous ces préhumains et humains avant nous, oui, ce sont vos amis, enfin...
C'est un petit peu, c'est encore un morceau de réponse à Philippe Charlier, c'est que le respect pour ces hommes fait qu'ils me deviennent familiers, et d'une certaine manière, bien sûr, mais que je les fréquente quand même, je les fréquente couramment, je les rencontre sans arrêt, et ça ne devient jamais simplement des objets. C'est toujours mieux que des objets, et il y a toujours une réflexion, une espèce de respect devant ces objets qui ont été vivants, qui ont été portés par des vivants.
Est-ce qu'il y en a un de ces hominés ou un de ces hommes anciens qui vous intéresse plus qu'un autre ou qui aurait votre préférence, si vous pouvez
pas ? C'est, là aussi, c'est facile à comprendre. C'est le premier découvert, c'est celui que j'ai découvert au Tchad, d'autant plus que celui-là, il reste un petit peu énigmatique quant à sa nature et un petit peu énigmatique quant à son âge, parce que ces terrains tchadiens n'ont pas la chance des terrains est-africains qui ont des niveaux volcaniques. Dans les niveaux volcaniques, il y a des éléments radioactifs, donc des éléments instables.
On peut les dater
C'est ça, donc ils se désintègrent, et la désintégration permet la datation. Au Tchad, Michel Brunet est en train de tenter des datations par des mesures cosmogéniques, c'est-à-dire des mesures d'éléments qui se trouvent dans le sol, mais qui arrivent de l'espace, et qui dateraient le terrain. Donc j'espère bien pouvoir dater un jour le terrain de mon tchadanthrope, et qu'il nous révèle un petit peu son existence, sa réalité, son ancienneté et sa nature.
Vous revenez en compagnie de Michel Brunet, si vous voulez d'ailleurs, Yves Coppens, revenez quand vous en saurez plus sur votre tchadien. Merci infiniment d'être passé dans notre studio pour partager vos mémoires. Donc, Origine de l'homme, origine d'un homme, ouvrage passionnant à recommander vivement, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment de votre présence, Yves Coppens.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Suite demain de notre série Les grandes voies humanistes de la recherche, avec le prix Nobel de physique Claude Cohen-Tanoudji. Autour de la question, comment apprivoiser la lumière? Retour sur un parcours de vie éclairant et lumineux, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Chers amis auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité et de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Vous êtes bien à l'écoute de RFI, et c'est bientôt l'heure du journal.